Campagne, bonjour. Les carnets en Haute-Garonne et en haute solidarité. Solidarité entre habitants d'un quartier, par exemple, comme c'est le cas avec la Maison des Citoyens de Toulouse. Elle n'est pas la seule en France, hein, puisque ces regroupements d'initiatives locales sous un même toit sont portés par le mouvement 1+1+1 d'Alexandre Jardin. Elle se multiplie dans l'Hexagone. Vous avez un lien avec la page Facebook, la Maison des Citoyens 31. Je retiens une solidarité moins emballée que celle de notre écrivain engagé, mais qui mérite une citation ici. Ici, la roulotte solidaire. Ce lieu d'accueil unique en son genre est un vestiaire de rue pour les plus démunis, sans-abri ou migrants. Géré depuis sa création par des bénévoles, la roulotte est en fait un lieu fixe rue Lagan à Toulouse. Et c'est à cause de Marseille que je dis ça. Et qui tente de répondre aux besoins de plus de 5000 personnes chaque année. Cela se traduit par un accueil autour d'un café, par une offre de vêtements, des services au titre du mieux-être avec une esthéticienne, une énergéticienne et surtout une aide dans toutes les démarches qui pèsent sur les épaules des exclus pour continuer à avancer. La roulotte solidaire.gymdo.com pour l'adresse. De la solidarité d'un autre type aujourd'hui avec CiviBox qui aide les projets d'activité à commencer par celle des associations de la région à se concrétiser. CiviBox, une boîte de com solidaire pour ainsi dire présidée par Jean-Marc Larocque, premier invité. Toulouse voit se construire la première coopérative d'habitants de la métropole. Elle s'appelle Abricop et Sylvain Guignard, l'un des 17 sociétaires, répondra à nos questions dans la seconde partie de ses carnets.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Jean-Marc Larocque, bonjour.
Bonjour.
Jean-Marc, on va présenter votre société, pas tout à fait comme les autres. Alors, vous êtes président de CiviBox. Et je me réfère au courrier que nous a envoyé Eva, qui dit « CiviBox, une boîte de com associative militante qui fait exister les projets aux côtés des plus grands d'Occitanie avec une exigence éthique. Figure-toi qu'ils ont le culot de n'accepter de travailler que pour des projets associatifs dont le principe les émeut ou leur plaît artistiquement. Ils choisissent leurs clients, c'est la classe, ils nous ont choisi, c'est la super classe. Allez-vous, je vais continuer mes lasagnes. » Donc bon appétit à Eva. Ça veut dire quoi tout ça? Parce qu'il va falloir démêler ce que nous dit Eva. CiviBox fait quoi au juste?
Alors CiviBox c'est une association, c'est pas une société, pour contredire un petit peu ce que disait Eva. C'est une association, effectivement on choisit nos partenaires et non pas nos clients. Le constat c'était de voir que un certain nombre d'associations ou d'organismes principalement en milieu rural avaient de bonnes idées et avaient un défaut de communication. Et les outils de communication ne sont pas forcément toujours très faciles à appréhender, et les sociétés de communication ne sont pas forcément non plus toujours faciles à comprendre, à saisir. Et on s'est dit qu'il y avait la possibilité de leur apporter quelque chose. Et donc c'est là qu'on a eu l'idée de créer CiviBox à trois personnes. Donc une quatrième personne s'est greffée récemment sur le projet.
Mais ça veut dire que vous avez de grandes antennes que vous dépliez pour entendre sur le territoire les projets en gestation, mais qui ont un déficit de communication et de financement?
On ne va pas chercher les projets. Les projets viennent à nous. Ça, c'est un gros avantage. C'est-à-dire qu'en fait, le fait même de faire la communication nous donne une visibilité. Et des personnes nous contactent en disant « Ah, ce que vous faites, ça nous intéresse. » Et on commence à discuter avec eux de leurs propres projets. Voilà.
Alors, le souci de communication, Jean-Marc, vous pouvez y répondre, j'imagine, comme beaucoup d'autres, assez facilement. Ensuite, il y a le souci du financement. Vous avez des partenaires pour ça?
Tout à fait. On ne veut pas être un simple prestataire en communication, ça ne nous intéresse pas particulièrement. On veut accompagner l'idée d'un projet, d'une association, d'un organisme ou d'un particulier qui a envie de s'installer en organisation, avec l'étude de son projet, l'étude du financement, l'étude des besoins, le montage de dossiers, etc. Donc toute la communication d'avant-projet, pour pouvoir obtenir justement les financements, la recherche des partenaires éventuels nécessaires à l'aboutissement du projet et des partenaires financiers, et ensuite l'accompagnement en développement. Donc au-delà de, une fois qu'on a eu les financements, qu'on a eu que le projet démarre, on accompagne en communication le projet pour son développement et son épanouissement.
Ouais. Et vous avez de belles ambitions, on peut les saluer et les soutenir, et entre autres de créer un événement national. Nos campagnes ont du talent.
Oui, tout à fait. Ça, c'est un projet d'événement donc national qui permet d'accompagner, d'être présent auprès des ruraux, on va dire, qui qui ont ce type de projet et d'avoir une audience nationale, effectivement.
Oui. Quand vous parlez de projet éthique, que faut-il entendre par éthique ? Ça encadre quel type d'activité ?
Il y a deux choses. Il y a la partie, on va dire, projet elle-même. Donc, on tient à ce que le projet soit rapproché de notions environnementales ou sociales, qu'elle puisse toucher le plus grand nombre de personnes dans le but d'améliorer des conditions, d'améliorer les accès, l'accès au numérique, on le voit aujourd'hui, ou la mobilité. Ça, ce sont des choses. Et ensuite, c'est aussi une démarche de Civibox. C'est-à-dire que des sociétés de communication peuvent faire ce qu'on appelle du one-shot. Hein. On peut faire de la communication sur de la vente ponctuelle, etc. C'est pas le but de Civibox. Le Civibox, le projet, c'est de montrer la qualité d'une idée dans la durée et de laisser, je dirais, le temps faire son effet, que chacun puisse se constater que le projet a de l'intérêt et parce qu'il a été montré uniquement dans ce qu'il est et avec une communication de qualité.
Ouais. Je vois que vous avez créé Civibox récemment. Je vois les résultats. La Maison de la Terre, on en a parlé, génial. 3PA, pareil, on en parle dans les carnets, génial. Vous continuez. On sent qu'il y a une marque de fabrique. Vous voulez l'étendre à quelle région, cette marque de fabrique ?
On n'a pas de limite particulière. Dans le cadre de 3PA, de l'association 3PA dont on parlait à l'instant, ils sont en train de monter un réseau d'écoles au niveau national, les écoles de la transition écologique. Et là, on va accompagner aussi les porteurs de projets qui vont déployer cette identité d'école, que ce soit sur Montpellier, Paris, etc., sur les projets qui sont en cours. Donc on n'a pas de limite, je dirais, territoriale. Maintenant, c'est vrai que naturellement, on se développe d'abord autour de nous.
Oui. Ça nous plaît drôlement. Ça s'appelle Civibox, civibox.fr, civibox.fr pour la page Facebook. Merci Jean-Marc.
Avec plaisir. Merci à vous.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
On revient à Toulouse avant d'appeler Sylvain Guignard pour évoquer tout d'abord l'agriculture urbaine et les jardins de ville. Sur le premier terme, l'expérience qui vient de démarrer à Toulouse au quartier des Argoulettes tient de l'éco-pâturage, on en reparlera. Cette expérience est menée jusqu'au mois de juillet sur les 30 hectares de verdure du quartier. Pour le second volet, je me réfère au réseau des jardins collectifs et individuels de la région toulousaine qui a vu le jour en 2012 suite à la rencontre entre jardiniers et amateurs de nature en ville. Doté d'un centre de ressources, à savoir qui dispense qui a de la documentation, qui propose une grainothèque, qui fait un prêt d'outils, organisateur d'événements et carrefour d'échanges et de conseils, le réseau a impulsé une nouvelle opération qui s'appelle Partageons les jardins. Et chaque premier mercredi du mois, un jardin de la région toulousaine est choisi pour y installer des ateliers de jardinage. Le mouvement d'ouverture de jardins en ville n'en est qu'à ses débuts. Et le réseau de Toulouse accompagne toutes les personnes ou les collectifs qui souhaitent se lancer dans le jardin. Jardinage participatif. Les arguments en sa faveur ne manquent pas. Une gestion collective, le respect de l'environnement, la mixité des publics, l'animation du quartier, une dégradation limitée de celui-ci grâce à ses activités, puis surtout une autoproduction de nourriture. Partageonslesjardins.fr. Et puis j'ai le temps de vous annoncer les 7 ans du Sol Violette, la monnaie locale et citoyenne de Toulouse, qui va fêter ses 7 ans le jeudi 17 mai de 18h à 23h à la salle San Subra, je pense qu'on dit comme ça, avec des concerts, des expos photos et puis la présentation des nouveaux billets du Sol Violette, donc qui souffle ses 7 bougies. Sylvain Guignard, bonjour.
Bonjour.
Sylvain, vous êtes l'un des 17 sociétaires de la coopérative d'habitants Abricop à Toulouse. Explication, une coopérative d'habitants, on en rencontre fréquemment maintenant. Mais c'est une société reconstituée à petite échelle ?
Alors non, parce qu'on ne se dit pas être une communauté, hein, mais une coopérative d'habitants, ça appartient à, on va dire, une grande famille qui est la famille de l'habitat participatif. Et après, la différence... Nous, on c'est pas encore une grande famille, la coopérative d'habitants, parce qu'on est le troisième projet en France à sortir de terre. Et du coup, c'est quand même encore assez nouveau. On est le premier coopérative à Toulouse. Et ce qui fait les valeurs de la coopérative d'habitants, c'est le fait qu'on soit en propriété collective, aussi la démocratie, et puis le fait qu'on soit déconnecté du marché.
Et quand vous créez, il y a 10 ans, l'association La Jeune Pousse, c'est le résultat de relations entre amis?
Oui, c'était d'abord une bande d'amis de gens qui se sont rencontrés autour de ce projet de coopérative parce que ça se lançait. Aussi, c'était au moment de la crise financière, du coup, il y avait aussi une réflexion sur comment sortir un peu d'une société passée individualiste et revenir sur des valeurs plus de collectif, de lien social. Donc voilà, je pense que c'est à ce moment-là qu'il y a des gens qui sont intéressés à ça et qui ont voulu lancer ce mouvement des coopératives d'habitants et qui est un peu copié de ce qui se passe dans d'autres pays comme la Suisse ou l'Allemagne.
Alors pour devenir sociétaire, on achète une part dans la coopérative?
Oui, alors c'est ça. En fait, notre projet, par exemple, il coûte 2,6 millions à peu près. Et pour le monter, il faut apporter un peu d'argent. Alors, on demande aux personnes d'apporter ce qu'elles peuvent le plus possible pour qu'on ne soit pas trop dépendant d'une banque. Mais oui, on apporte des parts sociales et on devient donc coopérateur habitant de l'immeuble.
Tout, en fait, s'accélère il y a 5 ans lorsque la ville de Toulouse vous propose un terrain.
Oui, alors là, il faut reconnaître quand justement le pouvoir du politique est important et notamment sur ce type de projet. Là, on avait il y a 5 ans donc une mairie, on va dire PS Europe Écologie Les Verts, avec des élus qui étaient à l'écoute, notamment sur ces dossiers-là. Et grâce au contact aussi qu'on avait, voilà, on a eu cette opportunité d'avoir ce terrain qui s'est présenté sur une nouvelle friche industrielle qui allait être réaménagée en zone d'aménagement concerté pour faire du logement. Et donc c'est vrai que sans à un moment donné une volonté politique, notamment dans des zones où le terrain est en zone tendue, c'est quasiment impossible sans aide, sans soutien des politiques, de monter ce genre de projet. À la campagne, c'est plus facile.
Oui. Alors, vous venez d'entrer dans les murs, ça y est maintenant. Le lieu est construit, immeuble de 4 étages. Je voudrais savoir quels sont vos espoirs maintenant que vous partagez cet espace coopératif et quelles sont éventuellement vos craintes.
Déjà, c'est vrai que le fait d'être dans cet immeuble et d'avoir aussi tous ces espaces partagés qui créent des lieux de rencontre, et ça ouvre des possibles en fait pour lancer plein de projets. Et parfois, de manière très spontanée, c'est-à-dire que voilà, il y a des habitants par exemple qui ont lancé tous les samedis soirs des soirées jeux de société. C'est tout bête, hein, mais voilà, c'est un moyen. Un soir, voilà, on sait pas quoi faire, on va à la salle commune et puis on peut lancer une activité et puis viennent les gens qui ont envie de se joindre. Et c'est vrai que c'est un lieu, c'est chouette parce que le fait de croiser ses voisins puis de les connaître et tout, c'est aussi des moments d'échange hyper sympa, quoi. Après, en termes de crainte, pour l'instant, moi, j'en ai pas vraiment, mais après, je pense que dans tout lieu humain, on va dire, il peut y avoir des tensions, mais je pense que ça arrive partout. Mais je pense pour moi que j'ai moins de crainte dans ce type d'habitat en termes de relations de voisinage que dans l'immeuble où j'étais avant, où je connaissais à peine mes voisins. Oui. Parce que le fait de pas se connaître aussi, ça, c'est souvent ça qui crée des tensions, c'est qu'on comprend pas ce que font nos voisins et on communique mal, quoi. Ici, voilà, on communique et donc ça permet de lever beaucoup de problèmes.
Oui. Le site, c'est lajeunepousse.org et vous allez avoir le lien avec le projet maintenant réalisé de la coopérative d'habitants à Bricop, à Toulouse, dans le quartier de la Cartoucherie. Merci Sylvain.
Oui, merci beaucoup. Est-ce que je peux juste laisser un dernier message?
Bien sûr.
En gros, ce que je voulais juste dire, c'est qu'il y a la fédération Habicop qui est gérée par l'ensemble des groupes projets de manière bénévole. Et si jamais vous êtes intéressé pour lancer ce genre de projet, je veux déjà dire que c'est possible, même si c'est un peu le parcours du combattant. On essaye de lever les obstacles juridiques. Et donc, allez sur habicop.fr. Vous pouvez nous contacter et l'éducation populaire est dans nos gènes, donc on sera heureux de partager nos savoirs pour aider les gens à monter leur projet.
Oh bah super, merci beaucoup pour le message et l'invitation. Bonne journée Sylvain.
Oui. Bonne journée, au revoir.
Demain, pour le dernier détour en Haute-Garonne, on vous promet encore quelque chose de bien rare en France, un tiers-lieu culinaire, à savoir un espace partagé par tous et toutes pour cuisiner, à Toulouse avec Capéco, et puis une autre rareté, une cave viticole et un restaurant géré par des travailleurs handicapés d'un ESAT, c'est la cave de P6 et le resto Les Lacs. Je vous rappelle qu'à la fin mai, puisqu'on continue à glaner les informations, nous serons en Seine-Saint-Denis, puis dans le Haut-Rhin, à Midi-Haut-Rhin. Continuez à nous écrire. Idem pour les habitants des Vosges et de Moselle début juin pour de nouveaux carnets.